Chapitre 2, deuxième Buridan. Vous êtes trop jeunes, mesdames, pour vous souvenir de ces antiquités. 1832, seigneur, était-ce avant le déluge? Il a pair de la tradition, des mémoires du temps et du témoignage plus grave des historiens qu'il y eut à Paris au commencement de cette année 1832 un de ces succès prodigieux, convulsifs, épileptiques, qui mettent de temps à autre la ville et les faubourgs en démence. Ce succès illustre, entre tous les succès du boulevard, fut conquis au vaillant théâtre de la Porte Saint-Martin par Bocage et Mademoiselle Georges, continué par Frédéric Lemaître et Madame d'Orval, exalté longtemps après par Mélingue et d'autres dames ou demoiselles. Il avait pour titre « La tour de Nesle ». La scène, messieurs, charriait bien des cadavres. C'était un drame, un grand drame, auquel, dit-on, beaucoup de gens d'esprit avaient collaboré, et que l'assassin avait revu plus d'une fois dans ses rêves. Les auteurs nommés furent messieurs Gaillardet et Trois Étoiles. Les Trois Étoiles cachaient un nom radieux, le nom du romancier le plus populaire, le nom du dramaturge le mieux aimé, notre ami et maître, Alexandre Dumas, car il l'assassina, l'infâme. Ce drame était écrit en un style avantageux et solennel qui a un peu vieilli depuis le temps, mais qui n'a pas cessé d'être le plus étonnant de tous les styles. Malgré le style, chaque fois qu'on représente ce drame, la salle est pleine de gens heureux. C'est le roi des drames. On ne fera plus jamais de drame comme celui-là, c'est promis. Il n'y a pas loin du tout du numéro 10 de la rue Sainte-Marguerite au numéro 3 de la rue Cassette. C'est bien le même quartier, et cependant, pour aller de l'un à l'autre, on traverse trois populations distinctes. Il y a encore des étudiants dans la rue Sainte-Marguerite, qui est l'extrême frontière du quartier latin. Une colonie bourgeoise et commerçante habite la contrée qui sépare Saint-Germain-des-Prés de Saint-Sulpice. À la rue du Vieux-Colombier commence l'îlot bénédictin, patrie du labeur religieux et tranquille, un peu déshonoré parfois par l'âpre spéculation des marchands qui se glissent jusque dans le temple. On fait là de beaux livres, d'éloquents et savants traités, des brochures aigre-douces, des commissions et l'usure avec prospectus distribués dans les presbytères de campagne. L'histoire sainte dit que Jésus fit des champignons humains qui outrageaient le sanctuaire. De toutes les choses les plus haïssables, la plus répugnante est certes la juiverie déguisée en dévotion catholique et vendant ses bragas au prix fou sous le manteau de la propagande. Le centre de la ville bénédictine, pleine de cabinets illustres et de boutiques impures, est la rue Cassette, voie étroite, bordée de maisons studieuses à l'aspect mélancolique et muet. Il y a telle de ces maisons dont l'arrière-façade regarde tout un horizon de magnifiques jardins. On est bien là pour méditer et pour prier. On y est pas mal non plus, paraîtrait-il, pour revendre à la toilette les choses d'église et pour faire de douces fortunes en pompant à bas bruit les économies des sacristies villageoises. Mais il s'agit de la tour de Nesle, marchandise franchement païenne et qui du moins ne portait pas de fausse étiquette. Si courte que fût la distance du numéro 10 de la rue Sainte-Marguerite, où demeurait sa mère, au numéro 3 de la rue Cassette, logis de maître Dehan, Roland rencontra la tour de Nesle plus de 50 fois en route, aux murailles, sous forme d'immenses affiches, aux stores des cafés, aux enseignes des marchands de vin, aux vitrines des libraires, aux lanternes qui se balancent devant la porte des loueurs de costumes. Tout disait ce mot, tout criait ce titre. Il était sous le bras de la fillette qui passait, les enfants errants le glapissaient dans le ruisseau, il tombait de la portière des équipages. Ceux qui allaient bras dessous, le long des trottoirs, le radotaient, ceux qui s'accostaient l'échangeaient, comme le bon mot en circulation, et deux sergents de ville, arrêtés à leurs frontières respectives, en causaient tout bas d'un air astucieux. Quand Paris se met à idolâtrer le café ou Racine ou même quelque chose de moins important, Madame de Sévigné n'y peut rien. C'est une fièvre, un transport. Il faut que la fantaisie se passe. Et notez que Madame de Sévigné, comme les autres, jette son cri dans la folle acclamation. L'opposition fait partie de la chambre, partie nécessaire. Parler pour, parler contre, c'est toujours parler. La joie suprême. Avant d'avoir tourné le dos de la rue Sainte-Marguerite, Roland, qui avait laissé son buridan chez la voisine, avait déjà heurté deux Landry, un Gautier d'Aunay, trois Orsini et un Enguerrand de Marigny. Cet homme était peut-être injuste. La rue Bonaparte n'existait pas encore. Sans cela, combien y eût-il coudoyé de filles de France masquées et courant à l'orgie du bord de l'eau? Dans la ruelle Taranne, il croisa Philippe Daunet, ce jeune incestueux qui mourut à la fleur de l'âge. Au bout du passage du Dragon, Marguerite de Bourgogne, la reine, lui proposa son cœur. À la Croix-Rouge, il culbuta la bohémienne qui aborde les cavaliers dans un but répréhensible. Pauvre vieux siècle qui sont comme le lion de la fable et qui ne peuvent plus se défendre. « Où vas-tu, Guénegou ?» demanda-t-il à un rapin de son atelier qui passait, en Savoisie, au tournant de la rue du Vieux Colombier. « Ah, la tour de Nesle !» lui répondit Guénegou d'une voix terrible. Et il sembla que toutes les rues de la Patte-d'Oie, la rue de Sèvres, la rue du Cherche-Midi, la rue de Grenelle, la rue du Four-Saint-Germain et la rue du Vieux-Colombier, renvoyaient ce nom prestigieux, élevé sur un pavois, fait de tous les grondements joyeux, de tous les cris de trompe, de toutes les clameurs ivres, de tous les rires sonores du carnaval. Ainsi l'entendit Roland. Comme il entrait rue Cassette, un homme sérieux, qui avait bu, lui ouvrit paternellement ses bras en disant « Il est 3 heures, la pluie tombe, Parisiens, dormez !» La tour de Nesle était comme la vérité dans le vin. Quelle que fût l'autorité de cet homme sérieux, il mentait effrontément sous son costume de veilleur de nuit. 4 heures du soir venaient de sonner aux nombreux couvents de la rue de Sèvres. Le crépuscule luttait encore contre la lueur des réverbères. En outre, il faisait un temps superbe, et dans tout Paris, il n'y avait pas un seul Parisien qui songeât à dormir. Roland passa la porte cochère du numéro 3 de la rue Cassette, une grave et belle maison. Le concierge traitait ses amis, et sa fille avait un hennin sur la tête, une escarcelle au côté, et aux pieds des souliers à la poulaine. L'auvergnat du coin, déguisé en escolier, lui parlait avec son âme. Roland, lui ayant demandé maître Dehan, le concierge se mit à rire. « Ah, dit-il, maître Dehan, un mardi gras, excusez !» La concierge, plus sobre, répondit « Première porte à droite, dans la cour. »« À quel étage ?» interrogea Roland. « À tous les étages !» lui fut-il répliqué. Et un soldat du guet, barbu comme une chèvre, qui accrochait sa clé à un clou, ajouta « Corne d'Hérode, je gage 5 sols parisis contre un angelot au soleil que ce brelandier de garde-note est déjà chez Orsini. » La première porte à droite dans la cour servait d'entrée à un pavillon de 4 étages et de 5 fenêtres de façade, le double écusson doré qui promet aux passants le bienfait du notariat en ornait le frontispice. Roland frappa. On ne lui répondit point. Il fit un pas en arrière afin d'examiner la maison. Le rez-de-chaussée et le premier étage étaient noirs. Des lumières brillaient au second, au troisième et au quatrième. Roland tourna un bouton et entra. La lanterne du vestibule lui montra le mot « étude » écrit en grosses lettres sur une porte. Cette porte était fermée. Des bruits de diverses sortes, aboiements de chiens, plaintes de guitares, sons de casseroles, descendaient l'escalier avec une vigoureuse odeur de cuisine. Roland monta la première volée et heurta du doigt un nuit fort décent. « Qui demandez-vous » cria-t-on de l'intérieur. C'était une voix de femme, demi-couverte par les jappements de plusieurs chiens. « Maître de bande, notaire !» « Je sais bien qu'il est notaire, » répliqua la voix. « La paix, vermine de caniche. Quelle heure est-il »« 4 heures et demie. Merci. Montez, il y a des clercs en haut. » Roland monta. Au second étage, une furieuse guitare raclait par-dessus une grosse voix qui chantait « Brune Andalouse, jeune fille de Séville, je suis l'Hidalgo de Castille dont l'œil brille, je viens chanter une gentille c'est que dit. » « Hola !» cria Roland, après avoir inutilement frappé. « Maître de banc ?»« Quelle heure est-il » demanda la voix, toujours accompagnée par la guitare. « 4 heures et demie !» Satanas, alors il faut que je m'habille. Ce pourra faire que vous demandez, maître de banc, pourra faire presser. Montez, il y a des clercs en haut. » Roland monta, mais en pestant, et de fait c'était là une singulière étude. Mais souvenez-vous que Paris était malade ou fou. Il y avait la tour de Nesle, compliquée par un reste de guitare mal guérie qui roucoulait encore entre deux hoquets du XVe siècle, Mantille, Castille, Charmille. Au troisième étage, le Saint-Doux grinçait avec fracas dans la poêle à frire. La porte était close, selon l'habitude de cette bizarre maison. Mais au travers des battants, on entendait des gens qui riaient et qui s'embrassaient. « Maître de banc, s'il vous plaît !» Un silence se fit parmi les rires étouffés. « Est-ce monsieur de banc, le notaire » fut-il demandé. « Précisément, je commence à trouver singulier. Quelle heure est-il, mon gentilhomme ?»« De par tous les diables !» s'écria Roland, exaspéré. « Je vais casser ici quelqu'un ou quelque chose !» Il était taillé pour cela, en vérité. Un large éclat de rire répondit à sa menace. Derrière cette porte du troisième étage, il y avait nombreuses et joyeuses sociétés. « Silence, mes seigneurs, et vous, noble dame !» ordonna une voix qui avait déjà parlé. « Étranger, le notariat est un sacerdoce. Sur le carré où vous respirez en ce moment, s'ouvrent deux escaliers, l'un qui descend, l'autre qui monte. Négligez le premier, à moins qu'il ne vous plaise de repasser demain. » Prenez le second, gravissez-en les degrés, comptez avec soin 17 marches, et à la 17e, vous vous arrêterez, car, seigneur, il n'y en a pas d'autre. Vous serez alors en face d'une porte semblable à celle-ci. Vous la contemplerez d'un œil impartial, et vous lancerez dedans un coup de pied proportionné à vos forces en disant « Hé, là-bas, Buridan, oh oui !» Buridan, répéta notre jeune homme, radouci tout à coup par ce nom magique, car la tour de Nesle répandait autour d'eux la concorde et la paix. « Au beignet !» commanda la voix anonyme au lieu de répondre. « Ah, j'ai assez de l'étranger, reprenons le cours de nos pantagruéliques esbattements !» La poêle à frire chanta de nouveau, le rire retentit et les baisers sonnèrent. Roland pensa qu'au point où il en était arrivé, mieux valait aller jusqu'au bout. Il monta la dernière volée de l'escalier. Là, tout était silencieux et sombre. Les autres, ceux du premier, du second et du troisième, avaient du moins donné signe de vie, mais Buridan, appelé, ne répondit point. De guerre lasse, Roland, moitié par colère, moitié par manière d'acquis et pour accomplir à la lettre les recommandations du voisin, lança contre la porte muette un coup de pied proportionné à sa force. Il était très fort. La peine sauta hors de la gâche et la porte s'ouvrit. « Qui va là ?» demanda la voix d'un dormeur, évidemment éveillé en sursaut. Et comme Roland restait tout déconcerté de son exploit, la voix reprit « Est-ce toi, Marguerite ?» Quoi de plus simple, Buridan attendait sa Marguerite. La tour de Nesle était là comme partout. Roland avait amassé, en montant ce fantastique escalier, tout un trésor de méchante humeur. Il entra, en disant d'un ton bourru, « Non, ce n'est pas Marguerite. »« Alors, qui vive ?» cria le dormeur en sautant sur ses pieds. Il faut bien dire que ce nom de Marguerite était pour un peu dans la méchante humeur de Roland. Il y avait une Marguerite qui l'attendait ou qui devait l'attendre au boulevard Montparnasse près de ce paradis perdu de la grande chaumière qui était alors dans tout son lustre. La grande chaumière, quel souvenir ! La grande chaumière mourut parce que son enseigne s'obstinait à caresser de vieilles vogues. Ce doux nom évoquait évidemment Ermenonville, les grottes de Bernardin de Saint-Pierre, les peupliers de Jean-Jacques Rousseau, l'être suprême, la paix de l'âme et les cœurs sensibles. Corbeuf, il aurait fallu l'appeler la taverne quand vinrent les dagues de Tolède et les rotules cagneuses, quitte à la nommer plus tard le tapis franc. Je sais une respectable compagnie qui s'est intitulée tour à tour la royale, la républicaine et l'impériale. Voilà du savoir-vivre. Quand les talons du dormeur touchèrent le carreau, il se fit un grand bruit d'éperon de théâtre. Une allumette plongea au fond d'un briquet phosphorique et s'enflamma. Déjà Roland se disait, car il était bon comme le bon pain, ce beau garçon-là, il y a 1200 marguerites dans Paris, de quoi diable vais-je m'occuper? Une bougie brilla, éclairant une mansarde assez vaste, où tout était sans dessus-dessous. Au milieu de la chambre, Buridan était debout. Un charmant Buridan, à la taille leste et bien prise, à la tête correcte et intelligente. Il portait à ravir toute sa friperie Moyen-Âge. Sa joue pâle faisait merveille sous ses énormes cheveux aplatis à la malcontent, et une fine lèvre avait bien l'ironique sourire qui est de rigueur. Il était seulement un peu trop jeune ou un peu trop vieux. Ce n'était ni le Buridan du cachot, frisant la quarantaine et parlant amèrement du passé lointain, ni le Buridan des premières amours, Lyonnais de Bournonville, page du duc de Bourgogne. Il était entre le prologue et la pièce. Il avait 24 ou 25 ans. Roland ôta, ma foi, son chapeau. Buridan le regarda et sourit. « J'aurais mieux aimé Marguerite, dit-il, mais vous feriez un crâne Gautier, donnez-vous. Je m'appelle Léon Malvois. Quelle heure est-il ? » Roland se dressa de son haut, et il était grand quand il se dressait ainsi. Peut-être pensez-vous que cette question, tant de fois et si mal à propos, répétée « Quelle heure est-il ?», lui échauffait décidément les oreilles, qu'il avait du reste singulièrement facile à échauffer. Vous vous tromperiez. La galante mine de Buridan avait caressé ses instincts de peintre. Il eût en vérité pardonné beaucoup à ce fier jeune homme qui portait avec une grâce si cavalière les guenilles à la mode, mais son regard venait de rencontrer le pied du lit où M. Léon Malvois sommeillait naguère. Sur le pied du lit, il y avait un madras quadrillé, jaune vif et ponceau, chiffonné selon l'art suprême que les grisettes bordelaises prodiguent à la coquetterie de leur coiffure. Roland était très pâle et ses lèvres tremblaient. « Il est l'heure de savoir, prononça-t-il entre ses dents serrées, comment s'appelle la Marguerite que vous attendiez, monsieur Léon Malvois. Marguerite de Bourgogne, parbleu. » Est-ce à elle, ce fichu qui est là ? Il montrait le pied du lit avec son doigt étendu convulsivement. Buridan regarda tour à tour le fichu de madras, puis le visage de son interlocuteur. La ligne nette et délicate de ses sourcils se brisa. Il mit le poing sur la hanche et demanda d'un ton provoquant « Qu'est-ce que cela vous fait ?» Roland avait ce calme des colères terribles. « Dans Paris, reprit-il lentement, il y a encore plus de madras que de marguerites. Je connais une marguerite et un madras tout pareil à celui-là qui appartient à cette marguerite. C'est justement pour cela que je vous demandais son nom. » Buridan réfléchit et répondit en posant son bougeoir sur la table de nuit pour avoir les mains libres à tout événement. « Elle se nomme Marguerite Sadoulas. » La pâleur de Roland devint plus mate. « Je vous remercie, monsieur Léon Malvois, dit-il. Je ne voulais pas vous insulter car vous êtes un homme poli. Mais, s'interrompit-il avec une violence soudaine, vous avez volé ce madras à Marguerite, c'est mon idée !» Il y eut de la pitié dans le sourire de Buridan. Ne vous battez pas pour cette belle fille-là, mon garçon, croyez-moi, murmura-t-il. Tirez-vous bien l'épée. Assez bien, j'y pense, ce sera drôle. J'ai moi aussi un costume de Buridan, un beau. Dansez-vous cette nuit? Je danse, je soupe. Il y a un temps pour tout. Voulez-vous que nous fassions un tour demain matin derrière le cimetière de Montparnasse? « Quel âge avez-vous ? » demanda Buridan avec hésitation. « 22 ans, répondit Roland, qui se vieillissait à dessein. « Ah, vraiment ? Vous n'avez pas l'air. Comment vous appelez-vous ? Roland. Roland qui ? Roland tout court. « Va pour le cimetière Montparnasse, dit Buridan, qui reprit son bougeoir. « Je vais vous éclairer, monsieur Roland tout court. « C'est bien convenu. » « Bien convenu, mais le diable m'emporte, si, Marguerite !» Roland descendait déjà l'escalier. Buridan, au lieu d'achever sa phrase, qui probablement n'était pas un cantique de louange en l'honneur de la demoiselle ou de la dame Sadoulas, se demanda « Au fait, pourquoi n'est-elle pas venue ?»« Eh !» cria dans l'escalier la voix de Roland. « Monsieur Lyon Malvois !»«
Qu'y a-t-il encore, monsieur Roland tout court ?»«
Il est 5h moins le quart.
Hein, bien obligé. Bonsoir. »«
Monsieur Lyon Malvois !»
Après,
« Savez-vous pourquoi on m'a demandé l'heure qu'il est à tous les étages de votre maison ?»«
Ah, parce que les montres de tous les étages sont au mont-de-piété. Bonne nuit. »«
Dis donc, un dernier mot. Vous êtes clerc chez Maître Deban, n'est-ce pas, monsieur Lyon Malvois ?»«
Mais oui, monsieur Roland Toucourt, 4e clerc. »«
J'étais venu pour parler à votre patron, une affaire très pressée. Il n'est pas à la maison ?»«
Non. »«
Savez-vous où je pourrais le rencontrer ?»
« Oui, Palais Royal, Garivalois, numéro 113. »«
À la maison de jeu ?»«
Il est notaire de l'établissement.
»« Je vais aller l'y trouver. »«
Oh, inutile si c'est pour lui demander de l'argent. »«
Au contraire, c'est pour lui en remettre. »«
Dangereux. »« Attendez, à demain, monsieur Roland Toucourt. »« Nous reviendrons peut-être ensemble du cimetière Montparnasse. »